Mortimer! Ah, mon cher Black! Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal!
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages!
Bien, monsieur!
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre!
Carme debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous
merci.
Parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est une émission spéciale réalisée par Christian que nous vous proposons ce soir. Elle sera entièrement consacrée à un auteur majeur de la bande dessinée franco-belge, Herman. De son vrai nom Herman Huppen, il est né en 1938 dans la région de Fagne, en Belgique. C'est Michel Greg, alors rédacteur en chef du journal Tintin, qui lance la carrière de Herman en écrivant pour lui à partir de 1966 le scénario de la série Bernard Prince, puis trois ans plus tard celui du western Comanche. En 1979, Herman décide de voler de ses propres ailes et crée sa première série solo, Jérémia, un récit post-apocalyptique publié par Dupuis et qui inspirera le film Mad Max. Puis en 1984, il s'intéresse au Moyen-Âge avec la série Les Tours de Bois-Maury, parue chez Glénat. Herman réalise également, depuis le début des années 1990, des one-shots, dont certains marquent les esprits, Sarajevo Tango, Kaatinga ou Lune de Guerre. Herman est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands maîtres de la bande dessinée réaliste. En 1997, il avait accordé un entretien à Benoît Mouchard pour RVE. C'est cet entretien que nous allons redécouvrir ce soir après une chanson de Bruce Springsteen.
A screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, those isn't around. Waste your summer praying.
Mille millions de mille chevaux.
Marc Dacier.
C'est une émission spéciale consacrée à un grand auteur de bande dessinée belge, Herman, que nous vous proposons ce soir. En 1997, Benoît Mouchard préparait « Greg, dialogue sans bulle », sa monographie consacrée à Michel Greg. C'est dans le cadre de ce travail qu'il avait interviewé Herman.
Vous savez, moi je pars du principe que ce qui est facile est sans intérêt. Voilà, ça c'est ma devise. Vous savez, des gens qui disent « Oh, c'est chouette, j'achète métier, je gagne bien ma vie, c'est facile ». Eh ben, je n'aime pas ça. Ça veut dire qu'on ne fait pas réellement d'efforts, on ne donne pas le maximum. Il faut suer sur ce que l'on fait. Enfin, c'est comme ça que je conçois les choses.
En 66, Greg devient rédacteur en chef de Tintin et vous faites partie des auteurs qu'il fait entrer, la nouvelle équipe du journal Tintin, dès le début. Et Bernard Prince rencontre assez vite du succès auprès des lecteurs. Les premières histoires sont des récits complets et quelques-unes sont signées par vous seul. Est-ce que ça veut dire que Greg vous laissait entière liberté ?
Non. C'est parce que parfois Greg avait des trous, c'est-à-dire qu'il ne pouvait, il avait tellement de travail que, c'est moi qui, moi j'avais des trous en raison de son surcroît de travail. J'ai pas fait ça tout de suite, mais après un certain temps, il m'a dit, écoutez mon vieux, pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Vous essayez de me concocter des bouts de scénario et moi, je jetterai un coup d'œil au texte, je corrigerai. En réalité, Greg a tout revu, parce que évidemment, si vous lisez le texte, vous trouverez la coloration du texte, l'espèce de chimie de la langue qui est propre à Greg. Mais ouais, c'est parce qu'il reprenait mes textes et puis il y apportait des tournures qui lui étaient propres. Et je dois reconnaître que j'en étais pas fâché, parce que Greg est probablement, selon moi, le scénariste dont la chimie de la langue française au niveau de la bande dessinée est la plus intéressante. Vraiment, c'est un type qui a une couleur dans le texte. Greg n'a pas un langage banal. Parfois, il en a fait un usage excessif. Parfois, il était un peu trop verbeux. Pas fatalement chez moi, mais même vis-à-vis chez lui. C'est tout de même un bonhomme dont on peut dire « Merde, et il a un texte intéressant. Il a un texte qui a du jus, il y a quelque chose. » Et c'est très important.
Dès la première aventure de Bernard Prince, il y a des sauvages belliqueux qui font leur apparition. Des sauvages, on retrouve un petit peu ce genre de personnage plus tard dans Bernard Prince, dans Guérilla pour un fantôme. C'était pour vous plaire ou est-ce que c'était comme ça, c'était lui ?
Non, c'est lui qui a imaginé ça. Non, je dirais même que les belliqueux, avec le recul, c'est pas du tout mai 68 qui a fait ça, mais on mûrit pour finir par regarder un peu et puis l'état d'esprit qui est véhiculé dans ces histoires. Je répète, j'aime beaucoup Greg, mais à mon avis, si je puis me permettre, quand même une petite réflexion, puisque on peut très bien aimer quelqu'un, ça veut pas dire pour ça qu'on trouve pas qu'il a pas un bouton sur le nez. Et je crois qu'il a dépeint ces Noirs, notamment dans la première histoire de Bernard Prince, ainsi que les Indiens présentés par lui. Moi, ça me gêne prodigieusement, parce qu'il a été établi plutôt que ces gens sont plus pacifistes que cela, et que ce sont plutôt les Blancs, enfin, ou les ou à moitié Blancs, qui sont des villes, qui ont l'armée en main, qui ont surtout détruit ces gens-là. Et là, avec le recul, je suis persuadé que si Greg me faisait un scénario comme celui-là, je refuserais de le dessiner. Ou alors je demanderais une modification, un regard beaucoup plus réel sur ces gens qui sont davantage des victimes que et si leur violence parfois s'exprime, c'est parce qu'ils en ont ras le cul d'être baisés, comme qui dirait, par tout ce monde capitaliste qui s'empare de leur terre. Donc vous voyez, je ne suis même pas gauchiste, hein, je suis pas, non, je tâche d'avoir un regard humain. Le terme humaniste est un peu prétentieux, mais maintenant ce n'est pas exclu, c'est exclu de pouvoir réaliser une histoire pareille. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait par la suite le prouve amplement. J'ai une démarche qui n'a rien à voir avec le gauchisme, parce que c'est aussi une manière de tordre la réalité. Non, j'essaye d'être le plus proche de me révolter contre ce qui est simplement injuste, quel que soit, il n'y a pas de couleur politique là-dedans.
Nous retrouvons Herman après une chanson de Gérald de Palmas.
Vie.
mystery all natural. Voilà ce qu'est devenu ma vie. Oh, oh, il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Trouver le remède. Je n'ai qu'une seule vie. Chaque chose avance et m'obsède. Je n'ai qu'une seule vie.
Monsieur, s'il vous plaît, quelques mots, je vous prie.
L'interview.
Nous redécouvrons ce soir, dans une émission spéciale, l'entretien que le grand dessinateur Herman avait accordé à Benoît Mouchard à la fin des années 1990.
Greg m'a dit, lorsque je donnais les descriptions à Herman, il me disait toujours « foutez-moi à la paix avec vos détails, c'est moi le dessinateur ».
Je crois que ça n'est pas tout à fait vrai. Mais parfois, il voulait aller trop loin. D'ailleurs, j'ai jamais utilisé le terme « foutez-moi à la paix », je ne me serais pas permis. Vous savez, Greg est une sorte de père pour moi, hein. Mais je lui disais, écoutez, ne m'en donnez pas trop, j'ai assez d'imagination pour faire face à la situation, parce que je n'ai jamais négligé le décor. Vous savez, c'est, l'histoire est une chose, le décor est partie prenante de l'histoire. Rien n'est innocent dans une histoire. Le fond du décor, genre qui tout à coup se met à cochonner, met n'importe quoi après tout, eh bien un décor expédié porte préjudice à l'avant-plan. Tout est en rapport. L'ennui, c'est que quand on est débutant dessinateur, on sue terriblement si j'assure les éléments principaux. Et parfois, c'est vrai, le citron est un peu sec lorsqu'il s'agit de dessiner le décor du fond. Et parfois, c'est vrai qu'on sue, on n'a parfois pas le courage moral d'en rajouter une couche consacrée au fond. On y pense, mais je veux dire qu'on ne le fignole pas. Et puis, vous savez, je veux dire, c'est un métier pareil, ça s'apprend. Et donc, je dirais pas tous les jours, mais tous les mois on apprend quelque chose et on avance par petits pas finalement.
Moi j'ai l'impression que dans votre dessin, vous ne cherchez pas à idéaliser le monde, mais plutôt à le montrer jusque dans ses laideurs, jusque dans la crasse, la boue, la poussière, etc. Et c'est déjà dans Bernard Prince.
Ah bah oui, bah parce que je trouvais que la plupart des bandes dessinées étaient aseptisées. Vous savez, c'est un peu comme les films de guerre des années 50. On montrait un Américain qui sautait d'un char et qui, à coup de mitraillette, abattait 10 Allemands qui, eux, tombaient pêle-mêle les uns sur les autres. Et puis voilà, c'était tout. Il n'y avait pas de traces de sang. On ne montrait pas qu'une balle avait arraché la moitié d'une tête, par exemple, des choses pareilles. Tandis que moi, j'aurais tendance à... Bah oui, mais c'est pas du tout parce que j'affectionne ça. Non, je déteste l'hypocrisie du politiquement correct qui consiste à montrer les choses telles qu'elles ne sont pas.
C'est ça.
Il faut montrer la laideur de la violence. Ce n'est pas pour ça que j'opte pour cette violence. On m'a déjà dit, on dit que tu trouves un plaisir. Non, je trouve un plaisir à montrer la violence telle qu'elle est. Ce n'est pas le plaisir. Il n'y a pas d'ostentation. Vous ne trouverez jamais aucun dessin d'ostentation. C'est toujours une violence qui est dénonciatrice. Mais si vous ne la montrez pas, elle n'est pas dénonciatrice. J'aime pas l'hypocrisie du monde. Je déteste, et je sais que je pars perdant, je déteste notre humanité, la nôtre, celle de toujours. L'homme est menteur, l'homme est tricheur. Il raconte n'importe quoi, les politiciens racontent n'importe quoi à la télévision. En réalité, les motivations profondes, ils ne vous les donnent pas. Et tout ça, je n'aime pas ce monde, je ne l'aime pas. Non, je vous dis franchement, je n'aime pas notre monde. Finalement, maintenant, je le sais. Je trouve que j'aurais pas dû naître. Je suis pas fait pour vivre là-dedans. Heureusement, je me suis sous la jambe, disant que j'y vivrai plus 50 ans. Je préfère montrer la réalité des choses le plus possible. Tant pis si ça déplaît un certain nombre. C'est vrai, je suis incapable d'être pute. Ça, c'est une chose que je ne peux pas. Je sais ce qu'il faut faire pour avoir plus de succès. Il faut mettre le pied dans certains étriers. Je refuse. Parce que si ça a du succès et en même temps me déplaire à moi-même, n'y être. Peut-être que si je vivais mal, que c'était le seul moyen de mettre un peu de beurre dans mes épinards, peut-être que je le ferais, j'accepterais. Vous voyez, tout est une question de prix, hein, de situation. Mais comme dans le fond, tout en faisant pas ces efforts, je marche très bien, je continue à réaliser des dessins, des histoires qui correspondent à moi et pas à un besoin du public.
Le dernier, Bernard Prince, Le Port des Fous, est un très bon album, autant sur le niveau du scénario que du dessin, je trouve. Oui. Il y a des scènes mémorables, notamment la scène avec les rats. Là.
Oui, c'est une, probablement la meilleure de l'album, d'ailleurs.
La
oui.
plus marquante.
Oui, probablement.
Là aussi, on est dans votre univers.
Oui, probablement, parce que justement, ça n'est pas... Non, écoutez, vous voyez vous-même, je ne vis pas dans la crasse. Hein. Mais non, mais je veux dire, mais par contre, exprimer ce qui est assez rustique, comme ça, oui, c'est... Oui. C'est-à-dire, je vais vous dire, ça revient au même, si j'établis... Par exemple, dessiner un enfant ou une jeune fille au visage très lisse, c'est chiant. Parce qu'il y a une... C'est pas facile, d'ailleurs. Il faut une espèce d'économie de traits, parce que dès que vous en rajoutez, elle vieillit. Donc c'est très difficile. Tandis qu'un personnage âgé, c'est exactement pour le décor, c'est tout ridé, c'est marqué, c'est plus juteux pour le dessinateur. Il y a une espèce de jouissance du trait. Alors justement, dessiner quelque chose qui est un peu cradin, avec une planche qui se détache, avec un clou, c'est tout ça fait qu'il y a une espèce de symphonie de lignes. Attends-nous, il faut tout de même se dominer, hein. Faut pas aller trop loin, sans quoi c'est illisible. Il faut quand même, donc somme toute, la rendre, retrouver une synthèse. Mais cette espèce de chose... C'est plus agréable qu'un univers tout à fait nu, un appartement nickel avec des sièges bien rangés, tout ça. Oui, une ou deux fois, mais systématiquement, je deviens dingue.
Nous retrouvons Herman après une chanson du groupe Skunk Anansie.
Every day hurts a little more. l'armure. Let's go.
Marc Dacier. C'est une émission spéciale consacrée à un grand auteur de bande dessinée belge, Herman, que nous vous proposons ce soir. En 1997, alors qu'il préparait sa monographie consacrée à Michel Greg, Benoît Mouchard a interviewé Herman. Celui-ci lui expliquait alors pourquoi il avait quitté Greg, son scénariste. Greg et Herman réalisaient ensemble les séries Bernard Prince et Comanche.
Mais Greg est très 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 pro-américain dans sa démarche. Je crois que s'il devait faire du cinéma, ce n'est pas un reproche, il serait du cinéma du style hollywoodien. Il ne ferait certainement pas Fargo des frères Coen, alors que c'est plutôt ce cinéma américain-là, ou du Woody Allen ou d'autres, c'est ça qui me plaît. Mais le cinéma hollywoodien, notamment avec cette espèce de tendresse vis-à-vis de la famille, et puis le drapeau américain, le mauvais qui finalement... Non, ça, ça me fait vomir, parce que c'est un mensonge cathédralesque. Ça ne correspond pas du tout à la vérité. L'Américain qui se donne bonne conscience, ça c'est quelque chose qui me fait vomir.
C'est sur ce point-là, finalement, qu'est née votre séparation.
Non, c'est pas ça. Non, j'avais envie de raconter mes histoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de développer des caractères, des personnages. Greg, ce sont des personnages à l'emporte-pièce pour le cinéma. Pour le cinéma tout public. Moi, je voulais apporter autre chose, davantage m'approcher des gens avec leurs défauts, hein, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on peut les aimer aussi, parce que hein, rien que des qualités, vous savez, tout ça, c'est très survolé, alors je préfère gratter un peu, et tant pis s'il y a de la rouille par-dessous, mais c'est comme ça. Je vais vous dire une chose aussi que Greg un jour m'a dit, en fait, de dessinateur, il n'y a pas de problème, vous vous défendrez de mieux en mieux, mais je ne crois pas que vous serez un jour scénariste, il m'a dit. Et je vous jure, j'ai pris cela. À un moment donné, je suis resté un peu la bouche ouverte. J'ai rien dit. Et alors que ça tournait dans ma tête, je me suis dit, bon, il a peut-être raison, mais il n'aura raison que dans la mesure où j'aurai essayé. Et pas du tout parce qu'il en a décidé ainsi. Et j'ai décidé, et petit à petit, il est arrivé des choses, j'ai éprouvé le besoin de raconter un truc, ça a été Jérémien. Et comme ça a très bien marché dès le départ, j'étais fatalement encouragé.
Lui-même vous a encouragé après.
Mais après, oui, bien sûr. Moi, je crois que j'ai l'impression qu'il y a quand même dû avoir un certain choc, une petite déception, que je l'ai quitté. Et je veux dire, c'est tout à fait humain, et c'est pas moi qui lui en voudrais. Moi, je crois probablement que je n'aimerais pas qu'un de mes auteurs me laisse tomber comme cela, pour voler entièrement de ses propres ailes. Mais c'est parce que je crois qu'à un moment donné, j'avais envie aussi de dépendre uniquement de mes capacités, afin de pouvoir... Aussi, Greg a peut-être été un tout petit peu responsable de ma décision, c'est qu'étant donné qu'il avait tellement de travail, monsieur était de plus en plus important dans le métier, qu'il m'a mis en chômage technique pendant des semaines. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Puis aussi, il n'y avait pas que ça. J'avais probablement en moi ce germe qui commençait à grandir inconsciemment, mais j'avais envie de raconter finalement quelque chose moi-même.
Greg aussi m'a dit que vous disiez parfois à propos de Bernard Prince, j'en ai assez de ce bellâtre. C'est vrai que Bernard Prince a un côté bellâtre et trop parfait.
Il a un côté chiffer masculin, comme ça. C'est une gravure de monde, le type bien habillé. Qui de temps en temps des aventures féminines, mais pas trop, il ne semble pas trop le chatouiller non plus, mais qu'il ne doit pas avoir de difficultés parce qu'il est beau. Il a quelque chose d'un peu... Il est un peu distant, finalement. Avec le temps, c'est un bonhomme qui vit uniquement sur lui-même, qui n'a besoin de personne. Inconsciemment, je préférais Jordan, qui évidemment était un bonhomme qui se saoulait allègrement. J'aime pas beaucoup les alcooliques, mais enfin, du moins en bande dessinée, c'est drôle. Ça permet de camper des personnages. Lui, il avait un côté humain. Il était plus normal. Et c'est vrai que Bernard Prince, j'ai jamais aimé ce type-là, comme j'ai jamais aimé la femme Comanche. Je n'ai jamais cette femme. J'ai jamais senti. Je veux dire que. Je retrouvais ces deux personnages comme étant assez artificiels, préoccupés d'eux-mêmes, point final. Et ça m'agace.
Michel Rouge, nouveau dessinateur de Comanche, m'a dit « Red Dust, c'est Greg ». Est-ce que vous pensez la même chose?
Oui, mais enfin, Dust est quand même un peu... C'est le couillon, c'est vraiment le type qui fait tout le boulot, qui est amoureux de la Comanche, mais dans le fond, il dort dans la paille, dans la pantie, alors qu'elle, elle l'aime bien. Enfin, elle prend le thé avec le notaire, avec l'avocat du coin, avec le bain. On ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. D'accord, tu m'as sorti du pétrin au départ, je t'aime bien, mais tu toucheras jamais ma petite culotte, hein. Même si tu es amoureux de moi, mais enfin, ça, tu peux pas te faire foutre. C'est une femme qui, dans ma tête, petit à petit réfléchissait à agrandir son rang, je veux dire plus important, d'améliorer le décor et surtout de vivre avec des gens plus intéressants qui sentaient moins le caca de cheval que Red Dust. Oui, là c'est un oui. Alors voilà, moi c'est pour moi c'est ça comment.
Ça aurait pu être intéressant comme développement par la suite.
Tout à fait, oui, mais je ne crois pas que Greg aurait été dans ce sens-là et je crois qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Pour lui, c'est peut-être normal qu'elle agisse comme ça, après tout, hein, la vie, c'est la vie. C'est un point de vue qui se défend, je ne le critique pas, je dis simplement que moi, je place pas ma caméra au même endroit.
Nous retrouvons Herman après une chanson de John Fogerty. Marc Dacier. Nous redécouvrons ce soir dans une émission spéciale l'entretien que Herman, l'auteur des séries Jérémia et Bernard Prince, avait accordé à Benoît Mouchard à la fin des années 1990. Herman revenait notamment sur ses influences, niant avoir à ses débuts copié d'autres grands dessinateurs réalistes.
J'ai été influencé, j'ai jamais rien copié.
C'est pas pareil.
J'ai jamais pris la moindre case. J.G. d'abord et puis Giraud par la suite. Mais enfin, Giraud c'est un tel génie. C'est un type qui est même plus dans. Il est hors du cercle. On ne juge pas Giraud. Il peut se permettre de faire des conneries qui ne sont jamais que. Enfin, pas des conneries, des choses excessives qui ne sont pas réussies du tout. Mais on sait très bien que c'est une expérience. C'est pas Giraud qui dégringole. Il se permet de faire un truc, quitte à le rater. Ça n'a aucune espèce d'intention. Tout le genre est d'une simplicité. La vie, c'est ça pour lui. Et il a parfaitement raison. Et il est tellement bon lorsqu'il se donne la peine. Enfin, de la peine. Ce qui revient à faire que c'est. Critiquer chance et. Non, il est hors concours le bonhomme. Il est, il est président depuis si longtemps. C'est un type prodigieux alors.
Jérémia est une série qui est un western post-apocalyptique, on peut dire.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Et au tout début, on sent une ambiance un petit peu Mad Max dans La Nuit des Rapaces.
Oui, oui, probablement Mad Max. Attention, je vous signale que Mad Max est venu après. Hein. Vous savez que le type qui a fait Mad Max, je sais que par des gens qui le connaissent, qu'il a été marqué par Jeremiah. Hein.
C'est sûr?
Ah oui, en tout cas, il l'a dit. Oui. Ouais.
Jeremiah est un héros positif, mais s'il n'est pas sans faille, il est quand même secondé par quelqu'un qui, lui, a beaucoup moins de scrupules, Curdy. Et je trouve qu'il a un côté Billy the Kid dans son impulsivité.
Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Curdy, c'est un type qui tout à coup peut tuer sur un coup de tête, une espèce de dispute, oui. Mais il le frappe de manière assez... Il ne va pas se camper devant le bonhomme et lui dire « Sors ton arme » et puis « Non, 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 il peut l'abattre dans le dos, il le fera. » Oui, mais c'est lui qui survit. Hein. En réalité, c'est le seul personnage viable de l'histoire. C'est le seul qui... lui, il ne fait pas de cadeaux, hein, mais on ne lui offre pas non plus. Mais il compte pas, il ne veut pas de cadeaux. Jérémie, c'est quand même un garçon, c'est pour ça qu'il a un prénom qui est biblique. Parce qu'évidemment, il vit dans ce monde américain, où une communauté qui a survécu, qui vit dans une espèce de fortin de rondin, un peu comme du temps du western, très primitive, de manière très primitive. Et puis ces gens, fatalement, il y a une chose qui ne les quitte pas, c'est la Bible. Hein, vous savez, c'est le fameux monde américain, hein, qui est assez étouffant sous cet angle-là. Pouvait se débarrasser de la Bible, ils se sentiraient mieux, ces gens-là. Mais, donc, somme toute, il est marqué au début par une espèce d'éducation un peu coincée. Donc, c'est un garçon très comme il faut, mais qui est un peu limité quant à son sens de la perception de la vie réelle.
Jérémia, vous dites qu'il a une bonne éducation, il a aussi un petit côté fleur bleue, il sort d'une déception sentimentale sévère.
Ah oui, mais il a son amour de toujours. Hein. Léna, l'asiatique, reste dans sa tête et elle sera toujours... Je dis, mais ça existe. Ça. On a beau même avoir des aventures, il y a des personnes qui vous restent dans la tête, pas fatalement une. Mais il y a des personnes qui peuvent vous rester dans la tête et bon, elles vous ont quitté, vous avez quitté pour des raisons, mais peu importe. Et puis, parce que les choses... Non, parce que cette jeune femme est peut-être bien gentille. Enfin, elle est très chouette. Finalement, elle est peut-être moins humainement valable que lui. Mais c'est une femme. Je m'explique. Et heureusement qu'elles sont comme ça, dans un certain sens. C'est qu'elle est beaucoup moins romantique que sa petite gueule pourrait laisser supposer. Elle veut un toit. Elle a un gosse. Elle veut quelque chose de solide. Elle veut un mec qui, le matin, parte au boulot ou alors qu'il a un boulot qui le rapporte parce qu'elle a envie de vivre convenablement. Tandis que eux, ce sont deux aventures. Jérémie, au départ, ne l'était peut-être pas, mais à force de vivre dans un monde où il est difficile d'avoir une vie stable, il a pris l'habitude comme Curdy. C'est-à-dire qu'il désapprouve peut-être Curdy. En même temps, avec le temps, il est obligé de reconnaître que nom d'un pétard, il ne peut pas vivre autrement. Il est aussi une sorte de gitan. C'est un type qui n'arrête pas de bouger aussi.
C'est ainsi que nous conclurons l'entretien accordé par Herman à Benoît Mouchard pour RVE en 1997. Cette émission spéciale était réalisée par Christian. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz interprétées par Xavier Liamas et son XL Trio. Bonsoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine.